le pardon par le sang versé. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à trouver le passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Et vous verrez en lisant ce texte pourquoi nous prendrons la scène après la prédication ce matin, parce que c'est un des textes que nous lisons souvent pour présenter le repas du Seigneur. C'est ce moment où Jésus, avec ses disciples, institue ce repas plein de symboles et de souvenirs. Lisons donc ensemble Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 29. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà les paroles de Jésus. Jésus qui parle de son sang versé. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole ce matin. Et ces paroles que Jésus a dites à ses disciples et que nous disons, que nous relisons souvent, nous te demandons que ce matin, elles nous éclairent. Elles nous encouragent, elles prennent peut-être un sens nouveau que nous n'avions jusque-là peut-être pas saisi, qu'elles renouvellent notre pensée, notre cœur, notre amour pour toi. Amen.
Amen.
Le pardon de nos péchés passe par Jésus qui répand son sang. Qu'est-ce que c'est le sang? Quel est le rapport entre le sang et le pardon? J'aimerais relever trois choses dans ce texte. D'abord, Jésus dit « Ceci est mon corps » et « Ceci est mon sang ». On a là deux expressions parallèles qui reviennent dans le texte. On ne peut pas donc isoler le sang en lui-même, le sang, le vin, le corps, le pain, cela va ensemble. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Deuxièmement, Jésus dit, ceci est mon corps, mon sang. Il s'agit donc d'une image. Je ne crois pas qu'aucun des apôtres qui étaient autour de la table avec Jésus ici, lorsque Jésus a dit « Ceci est mon sang », ils aient pris la coupe qui était devant eux, ils aient regardé dedans pour vérifier si c'était du sang. C'était du vin. Mais Jésus dit « Ce vin, c'est mon sang. Ce vin représente mon sang qui va être versé pour vous. » Il s'agit donc d'une image, d'une métaphore. Et cette façon de comprendre nous différencie, nous, chrétiens protestants évangéliques, de chrétiens d'autres traditions, qui prennent littéralement cette expression « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » et qui voient dans ces éléments que nous allons prendre tout à l'heure, le corps, le vrai corps et le vrai sang de Jésus. Ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas la manière dont nous comprenons ici ce que dit Jésus. Troisièmement, Jésus dit que son sang, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang de l'Alliance. Jésus prend donc une des coupes qui était sur la table, probablement ici pour le repas de Pâques, et il donne à cette coupe un sens nouveau. Ce vin représente son sang qui représente une alliance nouvelle. Ce vin est symbole, un symbole qui renvoie à une manière de conclure une alliance dans l'Ancien Testament. Peut-être vous vous souvenez, Genèse chapitre 15, Abraham qui coupe des animaux en deux et Dieu passe entre les animaux. C'est comme ça qu'on concluait une alliance dans l'ancien temps. On tuait des animaux, donc on répandait leur sang, on partageait les animaux et les deux personnes qui concluaient ensemble une alliance passaient entre les animaux pour se rappeler que celui qui transgresserait l'alliance subirait le même sort que ces animaux. Et ensuite, ces animaux partagés, on les cuisait et on prenait un repas ensemble. Et on mangeait un repas d'alliance. C'est cela que Jésus fait de manière symbolique avec ses disciples. C'est lui qui conclut une alliance nouvelle. C'est lui qui va être tué, sacrifié, son sang à lui va être versé et lui se porte garant de cette alliance. Nous y reviendrons encore tout à l'heure. Jésus annonce qu'il est cet agneau pascal, nous l'avons rappelé à Pâques, qui va être tué pour conclure une alliance nouvelle entre le Père Céleste et les hommes rachetés. Et vous avez peut-être remarqué dans ce texte, Jésus annonce aussi que nous mangerons ensemble le repas de l'Alliance. Je relis Matthieu 26, verset 29. « Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Repas de noces, repas d'Alliance qui attend tous les croyants, tous ceux qui sont sauvés par le Christ. Ces éléments commencent à nous éclairer sur la signification du sang. Mais quel est le lien avec le pardon? Et là, j'aimerais, dans un deuxième temps, reprendre rapidement quelques versets avec vous dans la Bible qui nous parlent du sang. J'ai mentionné tout à l'heure Genèse chapitre 4, nous pouvons le relire ensemble maintenant, au verset 10. Genèse chapitre 4, verset 10. Et nous allons lire comme ça 4 ou 5 passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui parle à Caïn et qui lui dit « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier depuis la terre jusqu'à moi. » Et comme Peter l'avait bien développé lors de sa prédication sur ce texte, le sang d'Abel crie « Vengeance ! Vengeance !» Abel a été tué par Caïn. Caïn doit mourir. Hier, nous avons regardé une petite vidéo au groupe de jeunes, une petite vidéo de l'association Portes Ouvertes, un chant en faveur des chrétiens persécutés pour les soutenir. Et ce chant s'intitule 100%. Et les mots qui sont marqués, c'est le 100, c'est pas le chiffre 100. Il ne s'agit pas d'un pourcentage, mais d'un 100 contre un autre 100. 100%. Le sang qui coule dans nos veines, le sang qui coule dans les veines des chrétiens qui sont persécutés, pour certains mis à mort. Eh bien, ce chant nous renvoie au fait que ces chrétiens qui souffrent à cause de Jésus sont au bénéfice du sang que Jésus a versé pour eux. 100%. Ici, c'est ce qui est réclamé par Dieu. Caïn a versé le sang de son frère, son sang lui est réclamé. Dieu est miséricordieux, comme quelqu'un l'a prié tout à l'heure. Et Dieu couvre Caïn de sa miséricorde. Caïn ne meurt pas sur le champ. Dieu protège Caïn. Mais Caïn est chassé. Un petit peu plus loin dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 4 à 6. Les hommes ont commis le mal de plus en plus sur la terre au point qu'ils ne pensent et ils ne font plus que le mal. Dieu décide de les retrancher, c'est le déluge. Dieu choisit Noé et sa famille, il les sauve du déluge. Et une fois qu'ils sortent de l'arche, voilà ce que Dieu dit. Genèse chapitre 9, verset 4. Il dit à Noé, « Vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra. Que ce soit un animal ou un homme, je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » On retrouve un peu la même idée que pour Caïn. Et là, Dieu associe le sang avec la vie. Le sang, c'est la vie. Non pas que notre vie soit dans notre sang, mais si nous n'avons plus de sang, nous n'avons plus de vie. Le sang, c'est le symbole de la vie. Verser le sang de quelqu'un, c'est lui prendre la vie. Le sang versé, c'est la vie ôtée, enlevée, arrachée, détruite. Celui qui tue un homme doit être tué. Il doit subir la peine qu'il a lui-même fait subir à quelqu'un d'autre. Le livre du Lévitique met en place tout un système autour de cette notion de 100% de vie pour vie. C'est tout le système des sacrifices. Lisons un verset dans le livre du Lévitique, chapitre 17, verset 11. Et Lévitique, donc Genèse, Exode, Lévitique, chapitre 17, verset 11. Toujours en lien avec ce thème du sang versé. Dieu dit, le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Je relis. Le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Qu'est-ce que c'est l'expiation ? La vie n'est pas dans le sang, nous l'avons dit. Mais verser le sang ici d'un animal, lui ôter la vie, voilà un moyen que Dieu a donné aux êtres humains. Prendre le sang, donc prendre la vie d'un animal à la place du coupable. C'est ça, l'expiation. Et si vous lisez à la maison tout le chapitre 16 du Lévitique, donc le chapitre qui précède, le verset que nous venons de lire, on voit que les Israélites devaient venir au temple avec un animal pour être pardonnés de leurs fautes. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On amenait son animal devant le prêtre et la personne qui venait offrir le sacrifice poser sa main sur la tête de l'animal. Et le prêtre égorgeait l'animal. Et donc, si c'est moi qui venais apporter ce sacrifice pour que Dieu pardonne mes péchés, en posant ma main sur la tête de l'animal, je pouvais voir que cet animal qui était égorgé, il était égorgé à ma place. C'est moi, à cause de mes fautes, à cause de mes péchés, qui aurais dû être à la place de cet animal. Mais Dieu ne veut pas que je meure. Dieu veut que je vive. Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde. Dieu veut me sauver, Dieu veut nous sauver. Il a donc mis en place ce système des sacrifices pour que le peuple d'Israël, et nous qui avons l'exemple de ce qu'a vécu le peuple d'Israël, nous nous rappelions que Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'Israélite qui amenait l'animal pour un sacrifice pouvait s'identifier à cet animal qui expiait, qui prenait sa place à cause de son péché. Et il pouvait voir qu'il échappait à la mort grâce à Dieu. Et que la vie de l'animal était donnée à la place de sa vie à lui. La vie de l'animal se substituait, c'est ça l'expiation, se substituait à la personne coupable de péché. Il y avait aussi, dans ce système des sacrifices en Israël, tout le symbole de l'aspersion du sang. On prenait du sang d'un animal sacrifié et on l'aspergeait. Déjà dans l'Exode, sur les linteaux de la porte, pour que les gens soient protégés. Et puis pour consacrer tous les objets du temple, du tabernacle dans un premier temps, puis du temple, les vêtements des prêtres. Et si l'on y réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que ce sang, c'est vraiment un symbole, parce que le sang que l'on envoie sur des vêtements, ce n'est pas pour les blanchir, c'est pour les salir, concrètement. Le sang, ça salit. Or, la Bible nous dit que ce sang aspergé, ce sang versé lors des sacrifices, il est pour notre purification. Si nous sommes donc purifiés avec un sang qui tache, c'est donc que le sang a bien une valeur symbolique. Il représente quelque chose. Il n'a pas de valeur en lui-même. Et c'est exactement ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je vous invite à tourner maintenant les pages de vos Bibles dans le Nouveau Testament pour y lire deux textes. Donc, vers la fin de la Bible, un peu avant l'Apocalypse, Hébreux chapitre 9. Et ces textes vont éclairer pour nous la raison d'être des passages de la Genèse et du Lévitique que nous venons de lire. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps avec vous de lire ces quelques versets dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 9, versets 19 à 22. Hébreux chapitre 9, versets 19 à 22. L'auteur parle du rôle de Moïse et du fait que le Christ est comme le grand prêtre qui officiait dans le temple. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. » Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope. C'est comme ça qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Il en a aspergé le livre, table de la loi, ainsi que tout le peuple. Donc ça aussi c'est symbolique. Moïse n'est pas passé devant 600 000 personnes pour les asperger de sang. Symboliquement, il les a aspergés de sang. Et écoutez bien, en disant « Ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. » Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Ces objets, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Et là, il va parler du sacrifice du Christ. Le verset qui est important ici, c'est « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » C'est comme ça que Dieu l'a voulu, que Dieu l'a pensé. Sans effusion de sang, dans une autre traduction. C'est-à-dire, à moins qu'une vie soit ôtée, il n'y a pas de pardon. Et si vous tournez la page au chapitre 10, à partir du verset 13, Hébreux 10, verset 13, l'auteur nous dit encore « Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur pensée. » Le Saint-Esprit qui vient dans le cœur des croyants, la Pentecôte, que nous allons fêter dans quelques temps. Puis il ajoute « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Verset 18 « Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les enlever. » S'il n'y a pas de sacrifice qui ôte le péché n'est pas ôté. Et pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que jamais, jamais, aucun sacrifice d'animal n'a pardonné quoi que ce soit. C'était l'ombre des choses à venir, ça c'est une phrase qu'il aime bien. C'était une image, les sacrifices dans l'Ancien Testament, étaient une image pour dire au peuple, voilà ce qui aurait dû vous arriver, la mort, voilà ce que je fais, moi Dieu, je vous fais grâce. Un animal meurt à votre place, mais celui qui vous sauve, c'est celui qui vient. C'est le Christ. C'est celui qui dit, je viens. Un petit peu plus tôt, dans les premiers versets, Hébreux 10, verset 5, le Christ qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris aucun plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché, tout ce que le peuple d'Israël a fait pendant des siècles et des siècles. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Là, l'auteur interprète une parole du psaume 40 pour dire, eh bien voilà, le psalmiste qui dit dans le psaume 40, je viens, cette parole, le Christ l'a accomplie parfaitement. C'est moi qui viens mourir pour que vous puissiez être pardonnés de vos péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé, c'est-à-dire sa vie qu'il donne pour nous, une fois pour toutes, voilà ce qui peut nous sauver la vie. Et avec ce qu'il sauve, Dieu renouvelle son alliance en les pardonnant. C'est ce qui est dit au verset 18. Lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Alors revenons à notre texte de Matthieu 26. Nous allons le relire ensemble. Matthieu 26, versets 26 à 29. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Je retiens quatre idées de ce texte. Jésus-Christ conclut une alliance nouvelle avec les hommes. Il a subi la sanction de cette alliance qui était rompue par le péché. Ce n'est pas Dieu qui a rompu l'alliance. Ce sont les hommes, ce sont nous, les êtres humains. Tous les sacrifices que faisaient les Israélites dans l'Ancien Testament, tout ce que nous pouvons nous-mêmes essayer de faire pour mériter la grâce de Dieu est voué à l'échec. Il a fallu que Dieu vienne. Je viens. Il est venu prendre notre place à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus qui conclut une alliance nouvelle avec nous. Sa mort, deuxièmement, sa mort à notre place, une fois pour toutes, c'est la garantie de cette alliance nouvelle. Vous avez noté ce petit mot ici, scellé. L'alliance est scellée grâce à son sang, grâce à la vie qu'il donne pour nous. Et c'est dans ce sens que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Parce que par son sang, par la vie qu'il donne, à notre place, Jésus fait une fois pour toutes ce que personne d'autre ne pouvait faire. Troisièmement, cette garantie, elle est éternelle. Ce n'est pas une garantie d'un an, ni de 2 ans, ni de 5 ans, ni de 7 ans, comme chez certains constructeurs automobiles. La garantie de sa voiture 7 ans, c'est pas rien. Eh bien, l'alliance que Jésus conclut avec tous ceux qui mettent leur confiance en lui, cette alliance est garantie éternellement. Quatrièmement, comment pouvons-nous bénéficier de cette garantie et de cette alliance? Je terminerai en lisant quelques paroles de l'Évangile selon Jean, de la première lettre de Jean, pardon. Jean nous dit: voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, et cela nous arrive tous, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez donc ce thème du pardon par le sang versé signifie que le sang de Jésus en lui-même ne peut rien, mais alors absolument rien pour nous. Mais le sang de Jésus en tant que symbole de la vie qu'il donne à notre place pour le péché, oui, ça, cela est valable. Voyez, le fait que Jésus nous rachète par son sang veut dire que Jésus nous rachète par la vie qu'il donne pour nous à notre place. Ce n'est pas le sang en lui-même qui a une valeur quelconque. Et donc, lorsque nous chantons certains chants, par exemple, « C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté », il faut que nous soyons attentifs à la manière dont nous comprenons ce que nous chantons. Ce n'est pas le sang en lui-même qui nous purifie de quoi que ce soit. C'est le sang en tant qu'il représente la vie que Jésus a donnée pour nous. De même, lorsque nous chantons « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité », ce n'est pas le sang de Jésus en lui-même qui enlève quelque chose. C'est le fait que Jésus, en mourant pour nous, à notre place à la croix, et donc en versant son sang, nous a rachetés. C'est Jésus qui nous sauve. Son sang est l'expression de sa mort à la croix. Et c'est là, à mon avis, où Mel Gibson, dans son interprétation de la Passion du Christ, se trompe. Tout au long du film La Passion du Christ, on ne cesse de voir du sang qui coule et qui gicle et qui coule et qui coule. Ce n'est pas le sang en lui-même qui nous rachète. C'est le sang de Jésus en tant que Jésus meurt, donne sa vie pour nous. Le sang en lui-même n'a aucune valeur et ne nous couvre de rien du tout. Mais la mort de Jésus, si nous l'acceptons par la foi, nous fait échapper à la condamnation. Alors, ces textes, et en particulier ce texte de Matthieu 26, résonnent pour nous ce matin comme une invitation. Une invitation à laquelle nous sommes conviés et qui appelle une réponse. Et cette réponse, nous allons la donner en partageant ensemble le pain et le vin. Le pain qui représente le corps de Jésus, son sang qui représente sa vie donnée pour nous, qui scelle une alliance nouvelle. Tous ceux et celles parmi nous qui reconnaissent dans cette mort de Jésus-Christ leur moyen de salut, le moyen que Dieu a donné pour nous sauver, sont invités à partager. Parce qu'en prenant ce pain et en buvant de cette coupe, nous annonçons, nous déclarons donc notre foi, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il est ressuscité, comme nous l'avons dit il y a peu de temps. À la Pâque. Tous ceux et celles parmi nous qui n'ont pas fait clairement ce choix de mettre leur vie en règle avec Dieu et de marcher en tant que disciples de Jésus-Christ. Laissez passer simplement ces éléments, ce pain et ce vin. Et profitez de cette occasion pour vous présenter devant Dieu, confesser vos fautes et pouvoir ainsi partager ce repas. Ce repas est d'abord une invitation. C'est comme si Jésus, après les textes que nous avons lus, nous disait à chacun et à tous, venez, venez, tout est fait, tout est accompli. C'est la dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. J'ai donné ma vie une fois pour toutes pour que Dieu pardonne vos péchés. Vous pouvez simplement venir, confesser vos fautes, accepter mon pardon et démarrer une vie nouvelle. Entrer dans cette alliance nouvelle pour l'éternité. La porte est ouverte, la main est tendue, le repas de l'alliance est prêt. Venez, venez vous asseoir à table. Voilà cette invitation que Jésus nous lance encore aujourd'hui alors que nous allons partager ces éléments. Je vais laisser la place à Simon pour la distribution.